Dans un essai aussi lumineux que délicieux, le philosophe Maxime Revert se pose dès le titre du livre une excellente question. Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même? Il précise dans son introduction, pour dire les choses simplement, le problème n'est pas la connerie, ce sont les cons. En effet, quelle que soit la définition que l'on choisit de la connerie, on aboutit à la même conclusion. Par tous les moyens possibles et imaginables, par toutes les forces humaines et non humaines, la connerie doit absolument, ou plutôt dans la mesure du possible, être combattue et anéantie. Mais les cons réels, c'est-à-dire celles et ceux qui encombrent notre quotidien, qu'on croise dans les transports, qu'on fréquente tous les jours au travail, celles et ceux avec qui l'on vit et qui se trouvent, hélas, jusque parmi notre famille, et même, oui, parmi les êtres qui ont partagé un bout de notre chemin, amis, amour, et qui révèlent un jour un visage abominable, ces cons-là, qui dirait qu'on doit les anéantir? Personne, à part peut-être le pire des cons, ne veut sérieusement en venir là. D'autant que le principal con, nous dit Maxime Revert, se trouve toujours en nous-mêmes, ça il faut jamais l'oublier, ce serait con.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui et de ceux qui se posent des questions. Il est comédien, à l'affiche mercredi prochain de Chamboultou, aux côtés d'Alexandra Lamy, notamment un film dans lequel il joue le rôle d'un homme qui a perdu la vue à la suite d'un accident, l'histoire d'un couple et d'une communauté d'amis aussi qui fait face à l'adversité avec grâce. Bonjour José Garcia.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Tout d'abord parce que c'est une question qui me hante et qui vous intéresse aussi. Je le sais, quelque chose me le dit. Qu'est-ce qui nous rend con, à votre avis?
Le malheur nous rend con. Je crois que ça vient toujours d'un grand malheur. Ouais.
Vous en connaissez beaucoup des cons, vous?
De plus en plus, parce que je me rends compte qu'en fait, de plus en plus, les gens sont atteints, soit humiliés, soit atteints dans leur intimité. Et donc, du coup, ils deviennent cons. Ouais. On devient cons tous quand tout d'un coup, on se retrouve dans des bouchons et qu'on essaie d'avancer. En fait, on sait très bien qu'on ne pourra pas avancer.
Vous-même, ça vous arrive plus souvent que retour?
Évidemment, moi. Et puis, insulter dans la voiture, je crois qu'il n'y a rien de plus agréable. Ça détend à mort.
Et puis, certains usages que l'on peut faire d'Internet. Ça, je sais que ça vous intéresse particulièrement, José Garcia.
Ah, je crois que j'ai jamais vu autant de bibliothèques vides et autant de conneries sur Internet. Moi, ça me réjouit parce que je me rends compte, j'ai un truc que je suis sur Twitter qui s'appelle The Grammy Awards, non pas les Grammy Awards, mais les Darwin Awards de tous les endroits, de tous les mecs qui font des trucs insensés, qui allument un feu avec un jerrycan d'essence et qui font sauter. Et je trouve que c'est fabuleux parce qu'en fait, le nombre de vues, vous savez que c'est rémunéré, ces histoires sur YouTube, par exemple. Et ben, un type qui se fait exploser, en allumant un feu, fait des millions de vues et gagne des millions de trucs. Donc il y a des gens qui insultent d'autres personnes et insultent des rappeurs ou des types qui font des combats. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi avoir un tuto pour fabriquer des choses extraordinaires, mais ça, généralement, il y a 4-5 vues.
Mais le con, c'est celui qui le fait ou celui qui regarde?
Alors je crois que c'est celui qui le fait et celui qui regarde.
D'accord.
Parce qu'on dit regarder une connerie et en fait voilà et en fait ça nous surprend quand même. On a ça vient toucher notre propre connerie. Moi je sais que ça me fait rire de voir un mec se balader avec une échelle accrochée à un autre pote et les mecs partent en moto parce que je me dis putain, il y a quand même de l'espoir quoi. Les mecs savent que au premier feu rouge, il y aurait un qui va s'encastrer sur l'autre et ça me fait rire de ma propre connerie parce que je me dis peut-être que je l'aurais fait il y a quelques années par exemple.
Ce qui est intéressant, c'est que ça a modifié quand même notre rapport à la connaissance, à l'apprentissage, à la transmission. J'ai l'impression que c'est ce que vous nous dites.
Alors
Internet.
Oui, mais en même temps, normalement, on devrait avoir un apprentissage quand même qui pourrait me permettre de nous faire évoluer. Et en fait, plus on avance, plus on voit des gens faire des choses absolument stupides. Donc c'est extraordinaire. C'est juste, on se rend compte à quel niveau et on trouve tous les jours encore mieux. Donc c'est formidable.
Je me souviens au moment de la sortie de Mrs. Hyde de Serge Bozon où ils avaient lui père jouer une prof de physique. Vous avez entendu parler, José Garcia, de votre admiration pour les enseignants. Vous déclariez les profs sont des héros.
Ben oui, ils sont des héros parce que de nos jours, essayer d'enseigner quelque chose à quelqu'un, surtout avec toutes tous les systèmes électroniques qui sont arrivés et qui nous demandent de moins en moins de concentration. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, un enfant, je crois que en fait le taux de concentration est arrivé. C'est-à-dire que elle a changé cette manière d'apprendre. Moi, je me rends compte qu'en fait les ados, les enfants et tout, maintenant peuvent faire 3-4 trucs en même temps. Ils ont l'impression de synthétiser très vite un nombre de choses et je crois que c'est parce que leur cerveau a été sollicité énormément.
Quel genre d'élève est-ce que vous étiez, vous?
Moi, c'est une catastrophe.
Une catastrophe?
Catastrophe.
Comment ça se fait, vous n'aimiez pas l'école?
Ben et en fait, je suis rentré de travers à l'école. Je suis rentré, j'avais un souci, c'est que ma mère m'a gardé longtemps avant d'arriver en CP. Donc je comprenais pas où les gens avaient appris à chanter. Enfin, il a fallu que je démystifie tout ça, quoi. Et après, j'ai été malade assez pendant tous les moments où on écrivait. Enfin, on apprenait la lecture. Et la lecture et l'écriture, et j'ai eu de la dyslexie, que j'ai changé tout seul plus tard, mais tout a été compliqué, quoi. Tout a été compliqué.
Pourtant, il y a des enseignants qui vous ont marqué.
Oui, il y a des gens extraordinaires qui m'ont en français ou en histoire, ou il y a plein de choses qui m'ont passionné. Ouais,
ouais. Au point d'en faire des héros. Encore aujourd'hui.
Mais ce sont des héros parce que d'abord avoir une classe de 30 élèves, parce que moi j'ai connu surtout des classes de 30 élèves, pas de 10, c'est terrible de réussir à capter l'attention toute la journée, tout ça pour prendre un coup de feutre dans le dos ou qu'il y a un mec qui balance des craies.
Ah, vous étiez de ce genre-là?
Non, alors moi j'étais beaucoup plus.
Vous étiez complètement con, José.
Non, moi j'étais pas du tout. Moi j'étais au deuxième rang, parce que j'ai compris que si je voulais tricher et avoir des bonnes notes, il fallait que je sois face.
La stratégie du deuxième rang.
Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, mais moi c'est dans Caligula, je serais pas Caligula, je serais le mec qui est à côté, qui balance, qui file les trucs à Caligula.
Et dans votre école de théâtre, les profs c'était des héros aussi.
Bien sûr, parce que de toute façon ils avaient, ils nous apportaient l'enseignement, où ils arrivaient à voir en tout cas en nous ce qu'on pouvait sortir, ce qu'on pouvait donner. Ils nous donnaient des textes qui pouvaient être en adéquation avec nous-mêmes, alors qu'en fait on ne le voyait pas. Et voilà. Ouais.
Comment vous êtes tourné vers le théâtre d'ailleurs, vous qui que rien ne prédestinait à une carrière dans le milieu du spectacle et du cinéma? Si j'ai bien compris.
Ça a été un coup de chance. Ça a été une amie d'un ami qui, quand elle m'a vu vraiment être en échec total parce que j'avais un BEP de comptabilité, enfin plus ou moins, elle m'a vu. J'allais partir à l'armée. Elle
j'adore
m'a dit,
le plus
écoute,
ou moins.
Oui, c'est ça. Oui, non, parce que plus ou moins, parce que je l'ai sur le papier, mais je vous conseille pas de m'affiler un compte.
Non, mais vous étiez à côté de Caligula, on a compris.
Ouais,
votre
ouais,
stratégie.
Voilà. Donc c'était chaotique et elle m'a dit, tiens, regarde, ça fait des années que tu fais rire tout le monde. Va dans cette école. Elle m'a donné le numéro du cours Florent. Donc voilà.
Ça a été un sujet de discorde avec vos parents?
Non, ça, de toute façon, au point où j'en étais.
Pour eux, ça représentait quoi le métier de comédien?
Ils m'ont dit ok, je veux dire, comme si je leur disais que j'allais faire du macomoulage, vous voyez, dans un centre de poterie, quoi. Ils se sont dit, si ça peut juste te détendre 5 minutes, ça peut être pas mal.
Sauf qu'ils aimaient le cinéma.
Ils aimaient le cinéma à la télévision. C'est toujours pareil. Il y a des gens qui aiment le cinéma à la télévision. Et eux n'allaient jamais au spectacle. Mais voilà. Et puis après, ils ont eu peur, évidemment. Après, quand j'ai commencé vraiment à faire une année, puis deux années, puis trois années, ça c'est devenu inquiétant, même pour mes amis proches, parce qu'ils se disaient, qu'est-ce que tu vas faire? Après, quand en plus j'ai eu 10 ans de galère derrière, alors là, c'est...
Quel souvenir est-ce que vous gardez des films que vous regardiez avec eux à la télévision, justement?
Si je suis devenu, disons, acteur plus comique que tragique, c'est parce que pendant 1h30, quand je voyais un film du dimanche soir, j'oubliais tous les emmerdes, quoi.
Les comédies?
Les comédies, parce que les comédies, en fait, elles vous transportent, elles vous donnent un plaisir, rien qu'un générique. C'était déjà 5 minutes d'évasion, alors qu'on n'avait pas d'autres choses, quoi. Voilà, on n'allait pas, on sortait pas, on n'allait pas au spectacle, on n'allait pas faire autre chose. Donc, ce générique qui était une espèce de moment commun où on se sentait bien, où on se préparait à rire, on se préparait à.
On se rassemblait.
On se rassemblait et puis on était heureux parce qu'on allait se faire embarquer dans une histoire. J'ai toujours gardé ce frémissement comme quand j'allais gamin au Guignol. C'était un moment extraordinaire. Et là, quand le rideau s'ouvrait, c'était... Ouais.
Quand est-ce que vous avez su, José Garcia, que vous étiez drôle, vous?
J'ai mis des années, en fait, où là, je l'étais pas du tout. Si, je faisais un peu le clown. J'adorais les clowns, les Augustes. Et tout petit, déjà, je regardais, j'avais la fille de la maison dans laquelle mes parents travaillaient, qui m'avait déguisé en clown, qui m'avait fait un petit maquillage et tout. Et à ce moment-là, j'ai pris un pied, mais total.
Et on voit d'ailleurs dans ce film, Chamboultou, que faire rire, c'est être constamment sur le fil. Pour vous, c'est un travail d'équilibriste, de funambule. Vous parlez de clown. Qu'est-ce que c'est un clown, pour vous?
Un clown, c'est quelqu'un qui a toute la misère du monde en soi, mais qui lui fait face. Un clown, c'est quelqu'un qui j'ai un texte que je lirai tout à l'heure, mais c'est un solitaire. C'est quelqu'un qui est capable d'affronter ses peurs. Et en fait, comme il les porte en lui, il est capable de les redonner aux autres. Il est capable de faire rire avec ses peurs. Et en même temps, il est capable de vous mettre face à ses angoisses. Un clown, c'est un angoissé. C'est quelqu'un qui voit le monde tel qu'il est. Et il lui fait tellement peur qu'en fait, il essaye de tout faire pour vous distraire.
Vous parlez de vous, là?
Ouais. Je parle de tous les clowns, je crois. Je parle de tous les gens, en tout cas, qui ont ce métier. Moi, j'ai un grand respect pour tous les clowns. La poésie, la tendresse, le regard d'un Auguste, la manière. Il y a des clowns géniaux. Il y a des clowns russes qui peuvent vous filer le frisson.
Moi, je pense à la piste aux étoiles, là.
Ah oui, bien sûr. Mais la piste aux étoiles, c'était le conte à crème, Zavata et tout ça, c'était le truc marrant. Mais après, quand vous commencez à attaquer vraiment sur des clowns, par exemple, quand vous allez voir tous les spectacles du Cirque du Soleil, vous avez des clowns absolument magistraux qui sont là et qui sont les maîtres, les monsieur loyal de. Et là, c'est un truc. D'ailleurs, j'ai rêvé d'un truc qui m'a fait rire énormément, c'est que j'ai une amie qui m'a dit qu'en fait, elle connaissait bien tous les clowns du Cirque du Soleil et qu'elle avait fait un dîner improbable avec tous les clowns. Elle me dit, ça fait une soirée quand même très étrange parce que t'as que des clowns à table et les mecs, en fait, dans la vraie vie, ils sont exactement pareils. Ça a l'air qu'ils t'envoient un coussin péteur. Ils te font un truc de l'autre côté hallucinant. Et quand toi, tu n'es pas clown, en fait, tu subis toute la soirée. Donc j'imaginais une soirée où le mec, il arrive et il t'envoie une fleur gorgée d'eau en pleine gueule ou un coussin péteur et que tu dis, t'as quelle soirée de merde. Non, mais ça m'a fait rire. Ça m'a donné une idée de scène pour un film.
Quel rêve, en tout cas. Celle qui n'a aucun rêve dans cette émission, peut-être que vous la connaissez. C'est la culture et son actualité morose. Alors, ils ont bouché complètement terre à terre et Numa Numaïa. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 28 mars? Finalement, c'est non pour Besson. La nomination de Philippe Besson au titre de consul à Los Angeles a été annulée par le Conseil d'État, écrivain, scénariste, auteur notamment d'un personnage de roman qui raconte la conquête du pouvoir par Emmanuel Macron. Il avait été nommé fin août 2018, très vite. Pourtant, ses liens avec le couple présidentiel avaient suscité une vive polémique qui avait incité la CFDT du ministère des Affaires étrangères à demander l'annulation de cette décision. Dont acte.
Picasso représente le portrait de Dora Maar.
Le chèque et le Picasso sont sur un bateau. Le Picasso prend les flots. Qu'est-ce qui reste? Une histoire rocambolesque qui remonte à près de 20 ans. À l'époque, le portrait de Dora Maar, toile de Picasso estimée à 25 millions d'euros, est dérobé sur le yacht d'un chèque saoudien amarré dans le port d'Antibes. Deux décennies plus tard, le tableau vient d'être retrouvé aux Pays-Bas grâce au travail de l'expert Arthur Brand, surnommé l'Indiana Jones du monde de l'art. La toile servait de monnaie d'échange dans des transactions illicites. À quand l'adaptation Netflix? Okara, dernier Kara, l'écrivain, poète et romancier nigérian Gabriel Okara est mort dimanche. Il avait 97 ans, géant des lettres africaines. Il était considéré comme le premier poète moderniste de l'Afrique anglophone, inspiré de paysages, de la religion, des traditions africaines. Il était notamment l'auteur d'un unique roman, The Voice, La Voix, paru en France en 1985. Auréolé de nombreux prix, il était aussi lauréat du NLNG Prize, le plus prestigieuse récompense des lettres nigérianes. Respect. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe. Et puis jazz à Megève, swing dans la neige. La célèbre station de ski de Haute-Savoie accueille dès aujourd'hui la quatrième édition de son joli festival international de jazz. Alors dès ce soir, on se réchauffe avec la diva soul Kimber Rose, on s'enjaille ensuite avec la lady du jazz Didi Bridgewater et enfin, on se laisse envoûter par les accords manouches de Thomas Dutronc. Pour compléter la programmation, la scène Jamy, consacrée aux jeunes talents, met à l'honneur quatre groupes émergents, dont le Anthony Jambon Group. Bref, sa voix swingée. Et le comédien José Garcia, invité de Boomerang ce matin pour son rôle dans Chamboule-tout, une comédie dans laquelle vous jouez un homme qui a perdu la vue à la suite d'un accident et qui souffre également de quelques problèmes cognitifs. Sa femme s'occupe beaucoup de lui et le film est l'histoire de leur couple qui dure malgré les épreuves. Alors incarner un personnage comme le vôtre, c'est-à-dire un personnage non-voyant, c'est un rôle comme un autre ou ça implique une responsabilité particulière pour vous?
Alors ça implique une responsabilité parce que évidemment quand vous faites un non-voyant, tout le monde passe son temps à regarder à quel moment vous allez avoir une faille et en fait vous décrochez du film. Donc c'est vraiment difficile, mais c'est ce que j'adore, c'est des rôles qui sont difficiles parce que soit vous vous ratez complet et bon bah voilà c'est de votre faute, soit bah vous réussissez à tenir le tout et du coup ça permet de voilà de d'avoir des frayeurs. J'aime bien avoir des frayeurs sur les tournages.
En est-ce fait. Que ça invite pas aussi à se poser la question de la visibilité non seulement des personnes mais aussi des acteurs en situation de handicap qui sont pour ainsi dire absents des écrans? Est-ce que selon vous le cinéma doit être le miroir exact de la société et de la diversité des individus qui la composent?
Oh, vous savez, je crois que tout ça, ça s'obtient, ça se prend. Je crois que le pire, c'est de faire des quotas et d'installer des choses. Ça, c'est ridicule parce que tout d'un coup, il y a des gens qui vont s'immiscer là-dedans. Je veux dire, il y a un moment, si les choses doivent se faire, elles se font. Ce qui est très important, il y a beaucoup de compagnies de théâtre qui incluent énormément de gens, qui ont des handicaps. Moi, je sais que j'avais travaillé il y a très longtemps. C'est la première fois que j'avais affaire au handicap. J'avais travaillé avec une compagnie qui s'appelle L'Oiseau Mouche, qui est justement donc a tous les acteurs en fait sont en situation de handicap plus ou moins fort et c'est intéressant de voir à quel point il y a une ils sont capables de répéter pendant des heures. Enfin, je veux dire, ils prennent leur rôle encore plus à cœur qu'un acteur.
Ah, vous êtes un gros travailleur de rôle, José Garcia. Comment vous l'avez préparé celui-ci? Justement, quelles questions est-ce que ça posait aux comédiens que vous êtes?
Bah, écoutez, j'ai passé du temps, si vous voulez, avec un monsieur extra qui s'appelle Dominique Dumont, qui est co-directeur des Bouffes Parisiens à Paris et qui choisit les pièces, donc juste à l'oreille. Donc c'est extraordinaire et qui m'a raconté, qui m'a parlé un petit peu de comment ça se passait. Après, je suis allé à l'école de chiens d'aveugle de Paris, où alors là, on rentre dans un monde encore plus impressionnant. C'est-à-dire le travail avec les chiens, parce que faire un chien d'aveugle, c'est des années et des années. Et après, j'ai travaillé avec une motricienne, alors quelqu'un qui apprend à vraiment aux personnes qui viennent d'avoir un accident ou qui ont perdu la vue à comment il faut se déplacer. Donc c'est des étapes toutes différentes les unes des autres.
Je vais vous poser une question qui va vous sembler étrange, mais qui me paraît centrale. Comment est-ce qu'on fait pour oublier qu'on voit?
Eh ben, pour oublier qu'on voit, vous le faites de temps en temps quand vous êtes fatigué. En fait, c'est la difficulté, c'est ce que j'ai essayé de faire sur le rôle. En fait, vous savez, de temps en temps, quand vous êtes en train soit de vous promener, mais généralement quand vous êtes en voiture ou vous êtes dans un transport en commun, vous pensez à quelque chose et vous êtes quand même en train de faire une action. C'est-à-dire que vous êtes en train de rouler sur une route, mais que vous connaissez bien la route généralement qui est la vôtre. Et en fait, vous pensez à quelque chose d'autre, mais vous ne regardez pas la route. Et pourtant, vous continuez à avancer. Et ben, c'est cet état-là qu'il faut avoir, pour ce rôle.
Ça exige un abandon, en fait.
Ben, en fait, vous devez, vous voyez, ce stylo, je vous présente un stylo. Par exemple, un stylo rouge. Vous gardez cette image de... Voilà, et vous projetez, vous ne regardez que ce stylo rouge. Et en fait, derrière, vous devez garder tout le temps cette image à l'esprit et faire d'autres actions et parler avec tout le monde. Et en fait, c'est ça. Ça vous met dans un état presque d'hypnose.
Alors, chez votre personnage, ça prend une forme assez intéressante. Ça le met dans une forme désinhibition. Il est complètement sans filtre, en fait. C'est comme si le regard des autres n'avait plus d'importance.
En fait, parce qu'il a eu un accident. En fait, il souffre d'un terme qui s'appelle de l'anosognosie. Il n'est pas au courant, en fait, qu'il a eu un accident. Je me souviens de tout ce qu'il y a eu avant. Mais souvent, moi, j'avais fait un film qui s'appelait La Boîte Noire de Benakista, adapté de Benakista, et où j'avais travaillé sur vraiment les chocs orbitaux frontaux. Et il y a quelque chose qui se passe avec un choc de scooter ou de choc de voiture comme ça, c'est que souvent, les gens, en fait, dès qu'ils touchent quelque chose, dès qu'ils se cognent vers quelque chose, ils ont une réaction extrêmement nerveuse parce qu'ils se souviennent du choc qu'ils ont pris, par surprise. Et là, en l'occurrence, lui, il a un problème d'insatiété, c'est-à-dire qu'il a tout le temps faim, ce personnage. Et dans la vraie vie, il paraît que le vrai personnage a tout le temps ce sentiment. Il a toujours besoin de manger. Il ne supporte pas de manger quand ça n'a pas de goût. En fait, ce qu'il veut, c'est de la junk food, quelque chose de gras, qui lui apporte du plaisir immédiat.
Le regard des autres, José Garcia, est-ce que ça compte?
Bien sûr, pour moi, à mort.
Encore aujourd'hui?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ça peut être un poids à une époque?
Ça peut être un poids parce que moi, j'aime pas de laisser mauvais souvenirs aux gens. C'est une nécessité. J'ai besoin d'être admis, moi, d'être aimé. Et l'humiliation est la pire des choses. Je déteste ça. Je déteste qu'on humilie devant moi ou qu'on humilie... Moi encore qu'on m'humilie, ça va, mais j'ai appris. Mais qu'on humilie les autres, je supporte pas ça.
Vous avez appris?
Oui, vous savez, quand on vous regarde avec condescendance et de temps en temps, vous tombez aussi sur des profs qui sont pas forcément des héros.
Mais c'est intéressant que vous reveniez sur l'enfance.
Ben oui, parce que l'enfance, c'est la base d'un acteur, vous savez, donc moi je suis tout le temps là-dedans.
Vous êtes né de parents espagnols, immigré, vous avez grandi, et c'est intéressant, dans les beaux quartiers, tout en étant issu d'un milieu modeste, quel impact, à votre avis, cette circulation, en fait, entre deux milieux a-t-elle pu avoir sur l'homme et l'acteur que vous êtes devenu?
Ben, d'abord, un regard qui n'est pas, teinté de... Je suis ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire que je regarde les deux en même temps. Vous savez, on me dit toujours, vous êtes de gauche ou de droite? J'ai dit non, moi je garde les deux yeux bien ouverts, ça me permet de mieux voir. En fait, d'essayer d'avoir de la hauteur et d'essayer de comprendre qu'il y a... tout n'est pas... Il n'y a pas des gens riches qui sont des salauds et des gens pauvres qui sont des gens formidables. Il y a des riches et des pauvres qui sont soit des salauds, soit des pauvres... Enfin, soit des pourris, mais c'est d'abord des êtres humains. Voilà.
Une capacité à s'adapter aussi, j'ai l'impression.
Ouais, et puis de voir qu'en fait, tout n'est pas complètement... que d'une seule couleur. La vie, elle est tellement, tellement riche de surprises, d'émotions, en même temps de déceptions. Voilà, il faut pas non plus tout englober et puis il faut prendre vraiment le temps d'observer.
Mais à l'époque, José Garcia, ça vous arrivait de penser que vous étiez en train de jouer, en fait, de jouer un rôle, justement?
Ah mais j'ai joué des rôles très importants. Le premier quand j'étais petit, parce qu'il fallait que je fasse attention de ne pas salir tout le travail que mes parents nettoyaient, donc il fallait que je fasse attention. Donc j'ai été spectateur pendant des années.
Ouais.
Je me baladais dans des grands appartements comme ça, les mains derrière le dos, tout petit, et je ne touchais pas évidemment quoi que ce soit. Donc j'ai dû garder les mains dans le dos, et puis alors c'est pour ça peut-être que maintenant je suis dévergondé sur un plateau et que je fais n'importe quoi.
En tout cas j'ai une image là de vous tout petit qui est d'une mignonnerie infinie.
C'est bah, mignon.
On va en parler. Juste après, parce que c'est jeudi et que ça fait du bien, les Libertines, leur titre que je préfère, What Became of the Likely Lads, c'était en 2004, vous êtes sur France Inter avec José Garcia, vous écoutez Boomang, allez là. Please don't get me wrong, see I've been giving you the song we'll call the likely lads. But if it's left to you, I know exactly what you do with all the dreams we have. Blood runs thicker, I'm the thickest thieves you know. If that's important to you,
it's important to
me. I try to make you see, but you don't want to know.
If you pipe will some along when you're forgiven in a song, I'll have to touch my life. The sun will rise to my arms when they need it, then the song is welcome back outside. The blood runs thicker, I'm the thickest thieves you know. If that's important to you,
it's important to me.
I try to make you see.
Try to make you see, but you don't want to know.
Oh, what became of the lovely lives? What became of the dreams we had? What became of forever? What became?
Try to make you see,
you don't want me to know.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
C'est difficile de rester indifférent, avec son regard pétillant, c'est son nez rond, son sourire de toréador vegan. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, ténébreux quand il faut, quelque part entre l'acteur almodovarien et Achille Zavatta, une énergie débordante qui vous emporte et vous donne envie de l'accompagner pour un soir élastique, un tour de l'Arctique en chien de traîneau ou une chasse à l'œuf de Pâques, avec son petit blouson bleu marine là ce matin. José Garcia, invité de Boomang, pour Chamboule tout en salle mercredi prochain, un film dans lequel vous jouez, on le disait, sur le fil de l'émotion et dans lequel votre personnage détaille intéressant et constamment affamé, comme s'il n'était jamais rassasié. Dans la vie, qu'est-ce qui vous nourrit, vous, José?
En tout cas, j'ai faim. Je garde toujours avoir faim de découvrir des choses. j'ai faim de rôle, j'ai faim d'énergie, j'ai faim de sensations, d'adrénaline, d'extrême.
Ouais. Ah oui, j'ai lu que vous étiez de plus en plus porté vers les sports extrêmes.
Non, j'en ai fait pendant là, je continue, mais je les fais pas de manière extrême, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me plaît, c'est de bien maîtriser ce que je dois faire pour me jeter dans quelque chose qui est immaîtrisable. Et c'est ça qui me plaît.
Qu'est-ce que vous cherchez, le frisson, le danger aussi?
Ben j'aime quand c'est sans filet, oui. Je trouve que c'est extraordinaire de jouer. Je crois que c'est le goût que j'ai pris avec Antoine Decaune quand on était à Nulle Part Ailleurs. C'est ce que j'aimais aussi au théâtre. Mais au théâtre, on refait quelque chose. Mais c'est de jouer tous les soirs avec ce frisson de savoir que de toute façon on n'y arrivera pas et qu'il faut s'en sortir.
Le vertige, au fait.
C'est le vertige.
Ouais. À vous entendre.
Ouais.
Je sais pas si ce qu'on va entendre maintenant vous donnera le vertige, José, mais quelque chose me dit que ça va vous faire plaisir. Ce que vous me l'avez un peu demandé.
Rencontrer les gens, c'est savoir y regarder. Vous savez, il faut s'entendre sur les mots. Parce que souvent, on parle bêtement de gentillesse, d'insolence, de perfidie, alors que tout cela est, à mon avis, beaucoup plus facile. Je pense, moi, très simplement que la gentillesse est une courtoisie, que l'insolence est une vertu et que la perfidie est une lâcheté. Je n'en finis pas de voir des gens perfides à la radio, à la télévision, à la presse, mais ensuite n'en finissent pas de s'excuser, de demander pardon à ceux qu'ils ont attaqués.
Parce que vous me donnez l'impression d'être un type bien, José Garcia, c'est Jacques Chancel en 1978.
J'adore.
Chez lui, dans l'émission L'Homme en question d'Anne Sinclair, et c'est sa voix que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin. Pourquoi lui ?
D'abord parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est en fait j'adore les radioscopies. J'ai trouvé en fait je trouve dans sa voix, dans le regard qu'avait cet homme, beaucoup d'intelligence. Et l'intelligence, c'est comme la connaissance, c'est quelque chose que vous distribuez. Et en fait, je veux dire, il y a la culture que vous pouvez garder en disant oui, j'ai lu les livres et tout ça, mais les vrais gens très intelligents sont les premiers à vous enseigner, à vous donner tout de suite ce partage. Et en fait, je trouve que dans Jacques Chancel, il y avait cette intelligence dans la voix. C'est quelqu'un qui vous posait des questions d'une manière limpide. Sa voix est métallique. On sent que c'est quelqu'un qui a vécu énormément et qui, en même temps, n'était pas dupe. Et je trouve que ce que vous avez choisi, là, comme extrait, c'est extraordinaire.
Sur la perfidie.
Mais oui, sur, voilà.
Et que la perfidie.
Et la politesse. Partout, et la politesse de justement, d'être. La gentillesse est au moins une politesse, quoi. C'est-à-dire que de nos jours, on a l'impression que. D'ailleurs, c'est marrant parce que je fais un personnage qui est sans filtre dans le film dans Chamboultou. Mais pas mal de gens m'ont dit est-ce que c'est bien de ne pas avoir de filtre ? Je dis le problème, c'est que de nos jours, en fait, il y a plein de gens qui considèrent que ne pas avoir de filtre, c'est être. Incorrect, enfin, rock'n'roll d'une certaine manière. Et en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est être juste brutal. Ne pas avoir assez d'intelligence pour être capable de dire des choses tout en voilà en, c'est irrespectueux en fait on est passé de l'irrespect de la calomnie, de la perfidie alors qu'en fait on pourrait dire des choses avec un peu plus d'intelligence justement et garder de la gentillesse quoi. Donc voilà,
c'est un texte qui parle d'aujourd'hui justement que vous avez choisi de nous lire ce matin, José Garcia, un texte du clown Bonaventure Gacon qui parle de la façon dont les images peuvent nuire à l'art et à la poésie, en l'occurrence celle du clown.
Oui, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très violent qui s'est passé justement avec des gars qui s'habillaient en clown et qui faisaient peur. Et je trouve que c'est très symptomatique de notre société. C'est-à-dire que quand on arrive à enlever le rire aux gens, quand on ne peut plus rire les uns avec les autres sans tout d'un coup se prendre une mélasse d'injures sur Internet, que tout d'un coup on rentre dans un monde pudibond qui est teinté de morale mais complètement fausse, je trouve qu'on est vraiment pas loin de la dictature. Et je trouve que avoir fait de cette image du clown quelque chose de moche, et que les gens maintenant voient des clowns tout d'un coup au cinéma et disent « Oh là, ça me fait peur, ça m'angoisse », je trouve que c'est très symptomatique de notre société.
Donc je vous écoute.
Aujourd'hui, on dirait que les clowns n'existent plus. Ce ne serait plus qu'une figure, un déguisement. Pourquoi la presse titre « Les clowns terrifiants » au lieu de dire que les gens se déguisent en clowns pour terrifier ? Si c'était déguisé en bonne sœur, auriez-vous titré « Les bonnes sœurs attaquent ». Ces gens qui attaquent et qui font peur ne sont pas des clowns. Ils sont déguisés en clowns. Les médias font tranquillement l'amalgame, oubliant ainsi ce long, difficile travail de réhabilitation du clown qui a mis des années à sortir du rôle de tarte à la crème qu'on lui réservait. Maintenant, il fait peur. Il pourrait tuer peut-être. Mais ce dont vous parlez, ce sont des dérangés qui se gorgent de fiction en profitant des réseaux sociaux pour déverser leur mal-être sur les passants. Et ce ne sont pas des solitaires. Le clown, le vrai,
et solitaire. Il affronte sa propre peur pour, avec courage, parce que c'est son métier, de ne faire que ce qu'est ce qu'il est, et d'aller vers l'autre sans armes. Le public, dans les salles de théâtre, dans les cirques, le sait, pour l'avoir vécu. Mais celui ou celle qui entend que les clowns sont ceux que vous décrivez, jamais plus ne viendront voir ce spectacle où il y a des clowns. Sous prétexte qu'il y a deux ou trois couillons qui s'amusent avec une image, vous fustigez tout le reste. Tout un pan d'histoire du spectacle vivant, de la poésie, du sensible, du cirque, du théâtre. Vous ne parlez que de Stephen King et de l'image du clown. Que faites-vous des vrais clowns qui ont fait l'histoire, le rire, l'art, le cirque, qui eux appartiennent à l'enfance, à l'imaginaire? Allez hop, Fellini, Buster Keaton, Pierre Etex, DeVos, Zouk, Grock, Charlie Rivel, Georges Carl, les Fratellini, Coluche, Zavatta et les contemporains comme Arletty, Adèle, Madame Françoise, Gilles de Fac, Zig, Otto et bien d'autres. Allez hop, tout le monde au placard, à la poubelle. Car aujourd'hui, les clowns ne font plus rire personne. Et cela juste parce qu'on a volé leur froc, leur silhouette. Vous, les médias, vous sautez à deux pieds dans les gros gâteaux gras. Vous ne défendez pas la culture, la fragilité, la sensibilité. Vous jouez le jeu des voyous. Juste l'image, uniquement l'image. Il n'y a plus que ça qui intéresse aujourd'hui. Pour vous, l'art n'existe pas. Qu'avons-nous fait pour nous retrouver, nous, les clowns au pilori? Juste parce que vous avez volé leur nez? Vous avez volé notre costume? On dirait que l'on ne garde de l'art du clown que l'image. Et qui plus est, la plus sordide. La lorgnette par laquelle vous regardez est bien petite et bien triste. Voilà, bonne aventure, Gacon.
Gloire au clown. Merci infiniment, José Garcia, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que chamboule tout. Éric Lavenne avec Alexandra Lamy, Olivia Côte, Michel Villermoz, Anne-Marie Vent, entre autres, sort la semaine prochaine. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Mes pupilles pelles, tes peaux mortes qui se perdent dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête sans que je le décèle. Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire. Dans la rigole, pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent, reviens me chercher, prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert, quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde.
Présentement, Aloïs Sauvage sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, l'instant M, vous m'attendez,
on est là, Augustin. À demain.
À demain.